Ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur, je désire te voir, je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur, ouvre les yeux de mon cœur, je désire te voir, je désire te voir. De mon cœur, de mon cœur, je désire te voir, je désire te voir. Élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta voix, par ton amour, ta force, alors que nous chantons, tu es saint. Ouvre les yeux de mon cœur, ouvre les yeux de mon cœur, je désire te voir, je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur, ouvre les yeux de mon cœur, je désire te voir, je désire te voir. Élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire, répands ton amour, ta force, alors que nous chantons, tu es saint. Élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire, répands ton amour, ta force, alors que nous chantons, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir.
J'aimerais lire quelques versets du psaume 145. Je t'exalterai, ô mon Dieu, mon roi, et je te louerai jusque dans l'éternité. Oui, je te louerai tous les jours, je te célébrerai jusque dans l'éternité. L'Éternel est grand et très digne de louange. Sa grandeur est insondable. Que chaque génération dise à celle qui la suit combien tes œuvres sont belles. C'est un peu le but de notre culte de ce matin. Nous, l'équipe KT, sont quelque part mandatés par l'Église pour dire à la génération future combien les œuvres de l'Éternel sont belles. Et nous désirons célébrer ce que nous avons vécu dans l'année ensemble. Je ne lis pas la suite du psaume qui décrit la beauté du Seigneur et de ses œuvres. Mais en ce début de culte, j'aimerais que chaque génération dise à celle qui la suit combien tes œuvres sont belles. Nous prions. Nous voilà réunis ce matin, notre Père Céleste, au nom de notre Seigneur, notre Sauveur Jésus, que tu as envoyé pour le salut des hommes, des femmes, que tu cherches encore aujourd'hui. Nous proclamons que ta bonté, la beauté de tes œuvres, que tu es rempli de compassion, de tendresse. Tu es bon envers tous les hommes. Et nous plaçons sous ta Seigneurie notre culte, en te priant de nous conduire, de réjouir nos cœurs, de nous permettre de découvrir un peu plus combien tes œuvres sont belles, Seigneur. Nous déposons à tes pieds nos préoccupations, nos soucis. Nous voilà, Seigneur, disponibles devant toi. Que ton Esprit nous dirige en toutes choses. Au nom de Jésus. Amen.
On a tous été enfants un jour, au caté, puis après adultes. Mais maintenant, on va travailler avec cette assemblée sur un seul des livres. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'on va le voir en entier.
Donc en fait, cette année, on a travaillé sur un seul livre qu'on va revoir aujourd'hui. D'où ? Pourquoi vous avez vous voyez, il y a un couloir là, ça vous inspire quoi ? Un chemin ? Ouais. Ben, c'est le chemin qu'on va faire ce matin. On va se déplacer du début jusqu'à la fin. C'est idiot ce que je viens de dire, mais c'est comme ça. Donc, on a parlé d'un livre qui se trouve dans le Nouveau Testament. C'est l'Évangile de l'Évangile. Donc, un des quatre, on en a étudié un. On a été inspiré par... C'est Luc. Un papa d'enfant qui suit, c'est sympa. Luc, effectivement. Et on l'a appelé Luc l'intégral. Pourquoi on l'a appelé comme ça ? Est-ce que ça éveille des souvenirs chez vous ? L'année dernière, c'est passé quoi ? Marc l'expérience. Et donc, cette année, on s'est dit, ben, nous, au KT, on va faire Luc l'intégral. On n'a pas eu peur. Et donc, on avait deux supports pour travailler. Et ces deux supports, le premier, vous le connaissez, hein ? Notre Bible de travail. C'est celle-là, on l'avait tous, on avait exactement les mêmes textes. Et puis, au cadeau sublime... On avait un deuxième document que vous n'aurez pas. Il a été tiré à très peu d'exemplaires. C'est un fascicule qui s'appelle Luc l'intégral, édition Église évangélique de Mérin, imprimé par Monsieur Béroux. Le tout offert aux potes, aux cathés, pardon, parce qu'aux potes, vous ne l'aurez pas. Et donc, c'est un fascicule qui nous parle de la vie de Luc. Et Luc, c'est un personnage... incroyable. Luc, déjà, c'est pas un juif. Il est quoi, Luc ? On ne sait pas. Grec, c'est ce qu'on dit. Et quel est son métier ? Médecin. Médecin, effectivement. Donc, les médecins, quand ils écrivent... Ok. Bien. Merci Anne. Ils écrivent mal, certes, mais ils écrivent précisément. Ce sont des gens qui sont très précis dans l'analyse. Ça va mieux, Alexandre, ça va mieux. Donc voilà, à la fin, vous pourrez venir consulter ce livre. C'est très intéressant, c'est sur le personnage de Luc. Et c'est un travail, à votre avis, de qui ? Martine Bachet, avec l'aide de son mari. Donc voilà, un très beau document sur lequel on a travaillé. Donc Luc, il relate, il n'a pas connu Jésus. Il relate des faits qu'il a entendus de témoins qui ont vu Jésus, de témoins oculaires. Il a lu l'évangile de Marc dans son entier, et il a écouté. Et de tous ces échos, de tous ces rapports avec les autres disciples, il a très bien connu Paul, même jusque dans la prison avec lui, et il a collecté toutes ces informations, et précisément, il va les rédiger dans un livre. Ce livre, c'est l'évangile de Luc. Et c'est ce que nous avons étudié. Alors, nous, on l'a étudié d'une certaine façon, mais... on a vu qu'il se tranchait en deux. Deux grandes parties. Donc la première partie, c'est celle qu'on va faire, c'est la venue de Jésus. Et l'autre partie, c'est, à votre avis, le départ de Jésus. Bravo. D'accord ? Juste pour information, il y a mes deux collègues qui sont en train de me noter là-bas, parce qu'en fait, je passe une audition, donc. Hein.
18 et demi.
Merci.
Sur 6.
Voilà. L'évangile de Luc commence. C'est l'annonce par l'ange de une ou deux naissances. Deux naissances. Deux naissances, tout ce qu'il y a de plus normal. La première naissance, c'est un vieux prêtre. C'est son jour où il est justement au temple. Et là, on lui annonce qu'il va avoir un enfant, que sa femme âgée, stérile, va avoir un enfant. Deuxième annonce, c'est l'ange Gabriel qui arrive. Et qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit à qui déjà? À Marie, qui est mariée avec son mari. Ah, pas encore. D'accord. Donc, pas mariée, elle est vierge. Et son mari est charpentier, et il ne se fréquente encore pas. Son futur, son fiancé, oui, c'était pour voir si vous suiviez bien. Bravo. Et son fiancé, en fait, lui aussi aura la visite d'un ange. Mais là, c'est deux annonces. Et vous imaginez? Vous imaginez?
Bon alors, vous trouvez ça normal? C'est un ange qui vient vous dire, vous vous souvenez, les jeunes parents, quand le ventre commence à gonfler, la fébrilité, l'impatience, hein, j'ai pris du poids, j'ai senti un pied, hein, je ci, je ça, tout le monde demande. Et alors il a encore, il a ce bébé, mais le chanceux qui est moi, attends. Alors vous imaginez, si déjà, quand c'est un bébé normal, on est dans cet état-là, dans quel état il devait être les gens du peuple d'Israël quand ils ont appris que il y avait eu un ange dans le temple qui avait dit à un vieillard, hey, tu vas devenir papa. Il devait se dire, tonnerre de Brest, qu'est-ce que ça va être pour un bébé? Ça doit être incroyable. On a l'habitude de lire les histoires comme ça. Un ange lui dit machin truc, puis on passe au verset suivant, puis au chapitre suivant, puis tout le monde trouve ça normal. Je crois qu'on ne s'arrête pas assez sur les textes bibliques, on ne se replace pas forcément dans le contexte, on ne s'imagine pas si c'était aujourd'hui, si là, Roger descendait de la scène et puis il ne pouvait plus parler pendant 9 mois, Dominique, hop, vous imaginez, déjà c'est complètement aberrant, humainement parlant, biologiquement parlant. En plus, ça s'est passé dans le lieu saint, quand il faisait des sacrifices, il avait l'ange juste là à côté. Je veux dire, c'est une naissance qui est attendue, les gens, ils tremblent tous, d'accord? C'est pas n'importe quoi, c'est pas juste, oui, alors prochain chapitre. Donc c'est quelque chose d'absolument incroyable.
Justement, je vais prendre le relais. Tu sais ce qu'il a, Ludovic, sous sa chaise? Ludovic, tu peux m'amener ce qu'il y a sous ta chaise? Merci. Ludovic, un des deux garçons du groupe, charmant jeune homme, le roi du sous-titre ou du titre de chapitre. Chaque fois qu'on disait « vous devinez », alors lui, et clac, il donnait le titre, ça nous cassait généralement. Mais
ouais. C'est de quoi parle ce chapitre, Ludovic dit, la naissance de Jésus. Il a lu le titre.
Tu peux te rasseoir. Merci beaucoup.
Mais c'est bien parce qu'il pourra vous donner un bon aperçu complet de l'évangile de Luc. Il connaît les titres par cœur.
Voilà.
Donc on a interdit d'ouvrir sa Bible maintenant, en fait.
Donc, arrive au bout de 9 mois une naissance. Ça vous inspire quoi? Pardon. Ben, il est né là-dedans. Parce qu'il est né où? Dans une crèche? Jésus. Effectivement, le petit Jésus naît.
On a zappé Jean-Baptiste à Jésus parce qu'il y a deux naissances en parallèle. On est sous stress, donc des fois on se mélange un peu les histoires.
Exactement.
Mais merci de nous le rappeler. C'est pour voir si tu suis.
Donc en fait, naît Jésus dans une crèche. Je l'ai mis dans un carton. Enfin, j'ai représenté la crèche dans un carton banane. On rigole, mais à l'époque, il n'y avait plus de place dans l'hôtellerie. Il n'y avait plus de place dans les lieux normaux où on pouvait accoucher. Il n'y avait plus de place à l'hôpital. Il est né où ? Dans une étable. Les jeunes du Cathay, l'année dernière, ils ont dormi dans une étable. Fraîchement, les vaches venaient juste de partir. Ils avaient mis un petit peu de chaud, un petit peu de foin. On a dormi dedans. Le régal. Les mouches. L'odeur. C'était vraiment... Ben, Jésus est né dans cet environnement-là. Alors, carton banane, tu as dit que mon idée était bonne, pourquoi ?
Vous croyez qu'aujourd'hui, il y a des enfants qui sont mis dans des cartons bananes quand ils naissent ? Ouais. Il y en a, c'est même pire. Ça, c'est les riches et les pauvres qui ont quelques chiffons et un carton banane. On a un petit peu de la peine à se représenter que ce deuxième bébé qui avait été annoncé par un ange, qu'on appellera comme ci, comme ci, comme ça, quand il arrive, il est dans un carton, à la gare, Cornavin, dans un coin. Il y a un courant d'air, il fait froid. Ça fait quand même bizarre. C'est comme ça que ça a commencé. Israël s'attendait, ça faisait des années qu'ils étaient opprimés, ils avaient eu les Égyptiens, ils ont eu, après la traversée de la mer, ils se sont dit, ça y est, on a gagné, ils sont arrivés de l'autre côté, paf, 40 ans dans le désert, tout tourne en rond. Maintenant, c'est les Romains qui nous briment, puis enfin, on va avoir un libérateur. Puis il arrive à la gare Cornavin dans un carton. Franchement, à l'époque, si on y avait été, on aurait cru. Il y a deux, trois fous qui ont cru. C'était des bergers.
Ils ont été aidés aussi. Hein.
Il y a deux, trois autres fous qui ont cru. Ils sont venus avec de l'or, de la myrrhe et de l'encens. Puis ils étaient là devant une mangeoire dans la litière des animaux. Pour nous, j'ai presque envie de dire facile aujourd'hui de croire à ça. On sait ce qu'il y a eu après. Sur le moment, imaginez pour les Juifs qui étaient à fond dans leur foi. Et puis ils allaient une fois par semaine à la synagogue, ils étudiaient les Écritures, ils priaient, ils avaient dédié leur vie à Dieu, ils lisaient la parole, ils attendaient leur libérateur. Tiens, voilà ton libérateur, il est dans un carton banane.
Donc il naît, et en Israël, au bout de 8 jours, qu'est-ce qui se passe ? C'est plus violent que la présentation. Hein. C'est la circoncision. Et donc, après, la présentation au temple. Petite anecdote, au temple, 2 personnes sont là. Un barbu, qui s'appelle Siméon. Il est là, il a reçu par l'Esprit qui verrait le Sauveur d'Israël. Il prend l'enfant dans ses bras et lui dit, maintenant, je sais que c'est toi, je peux mourir, j'ai vu le Sauveur d'Israël. Et puis à côté, il y a une vieille dame qui porte un nom charmant. Anne, la prophétesse, qui elle aussi, de joie, reconnaît l'enfant et n'arrêtera plus de clamer dans le temple que c'est le Sauveur, c'est le Sauveur, c'est le Sauveur. Jésus, donc à quelques jours, et dans la Bible, il y a un trou, on le retrouve à 12 ans. 12 ans, il y a la fête de la Pâque et il va à Jérusalem. Avec ses parents pour fêter la fête de la Pâque. Ses parents, dans l'enthousiasme, il faut penser que tout le peuple d'Israël montait à Jérusalem. Dans l'enthousiasme, les parents perdent Jésus, mais ils se disent, il est avec ses copains. Vous imaginez le flot de personnes. Mais Jésus, il n'est pas avec ses copains. La recherche va durer 3 jours. Pendant ces 3 jours, vous savez où il est ? Il est dans le temple. Qu'est-ce qu'il fait dans le temple ? Il enseigne, il écoute, il pose des questions et toutes les personnes qui sont là sont étonnées du grand savoir de ce jeune homme de 12 ans. Nathan, tu as quel âge ? Ouais, hein, toi, oui. Comment ? 13 ans, donc ça ne te concerne pas.
Un peu trop vieux. Qui c'est qui a 12 ans ici ? Ouais, Roméo, viens voir. Imaginez, 12 ans. Viens avec moi, s'il te plaît. Ouais, non, il est super génial. C'est mon neveu, il s'appelle Roméo. Il est magnifique. à 12 ans. Vous imaginez maintenant Roméo, oui, on va se pointer là vers les anciens, Pierre, il y a Roger, il y a Marie-Thérèse. Puis maintenant tu commences à leur expliquer comment ça va la vie. Je t'explique, en fait ce que tu as lu dans la Bible, tu t'es complètement gouré toute ta vie, c'était pas du tout ça. En fait ce que ça voulait dire, je vais t'expliquer. On est complètement dans la cinquième dimension, hein. Et allez, franchement, on va quand même pas croire un gamin comme ça. Il va nous dire des trucs sérieux qui tiennent la route. Incroyable. Plus incroyable, c'est que dans la synagogue, les anciens, ils le regardent. Comme Pierre, il est en train de regarder Roméo, puis il se dit, ouais, peut-être bien qu'il a un truc à m'apprendre. Ça, c'est quand même sidérant. J'aime bien ton regard, du reste. Et il n'y a pas d'âge pour dire des choses justes. Il n'y a pas d'âge pour se laisser interpeller. Merci beaucoup.
Donc, Jésus grandissait. Roger, tu pourrais juste nous lire Luc 2, 52. Luc 2, 52.
Jésus grandissait en sagesse, en taille et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Ça, c'est un résumé de combien d'années ?
Voilà, Salomé. T'es où, Salomé ? Qu'est-ce que t'as sous ta chaise, Salomé ?
Ben oui.
Oui, tu peux venir, hein, merci. J'ai besoin de ton aide. Salomé, présente Salomé. Tu peux te rasseoir, Salomé, je te remercie beaucoup. Je ne voulais pas te déranger plus. C'est quoi ? Une scie. Égoïne. Du nom de du monsieur Égoïne, c'est ça ? Oui, ça. Et donc, c'est une... Et donc, ça vous fait penser à quoi ? Charpentier. Pourquoi je pense à... J'ai pris cet outil-là. Parce qu'on a vu Jésus à 8 jours, enfin à la naissance, à 8 jours, à 12 ans, et on le revoit à quel âge ? 30 ans. Qu'est-ce qu'il fait entre deux ?
Non, mais franchement...
Il travaille, exactement. Et il s'est formé, il se forme hein, auprès de son papa.
Mais franchement, attends. C'est l'ange qui l'a annoncé. C'est le sauveur d'Israël. D'abord, il arrive dans un carton banane à la guerre Cornavin. Puis après, il dit, bon, quand il va grandir, c'est bon, à 12 ans, on a vu qu'il y avait un bon départ. Il a bien croché à la synagogue. Ça y est, c'est parti. Et puis, si vous voyez... ce jeune adolescent, ce jeune homme qui commence à grandir et puis qu'il y a une promesse, c'est un ange qui vous a promis quelque chose. Au bout de 20 ans, ben, il peut s'y mettre, on est d'accord. Puis là, il a 25 ans. Qu'est-ce qu'il fait ? Il travaille chez son père. Et puis, on attend, on attend, on attend. Qui d'entre nous aurait continué à croire ? Au bout de 30 ans d'attente, les Égyptiens, la traversée de la mer Rouge, les 40 ans dans le désert, les Romains, enfin, oui, la courbe émotionnelle, comme disent certains, la courbe émotionnelle qui dit, oui, on va avoir un sauveur, le sauveur se pointe dans un carton, oui, mais non, attends, puis après, il y a cette déception, cette interrogation, et puis ensuite, on le retrouve dans la synagogue, puis on se dit, c'est bon, c'est parti, puis après, on le voit de nouveau plus pendant, là, ça nous fait 18 ans.
Oui, mais tout d'un coup, quelqu'un va arriver sur scène.
Oui, justement. Jean-Baptiste arrive sur scène, bien vu. Et puis, le ministère de Jésus, lui, commence par quoi ? Par quel événement le ministère de Jésus va commencer ? Son baptême, tout à fait. Et donc, il va se faire baptiser. Et puis, son ministère commence. Je vais aller prendre, je vois qu'il y a un sac plastique qui est là et qui traîne. C'est des sandales. Pourquoi des sandales ? Parce que le ministère de Jésus, ah là là, il va en faire des kilomètres. Il va marcher, il va marcher, il va marcher. On marche beaucoup. De synagogue, en enseignement, devant la foule, on revient, on repart, et on n'arrête pas de marcher. Et là, on est dans une période où Jésus fait. Il est encore seul, donc il pratique, il enseigne déjà, des guérisons, il chasse des démons, il fait des tas de miracles. Et donc c'est une partie où Jésus, comme on l'avait appelé, Jésus fait. Jusqu'au chapitre 6 d'ailleurs de la Bible, donc on fait un grand saut. Hein. Aujourd'hui, nous dirions qu'il occupe la scène médiatique. C'est-à-dire qu'on commence à le connaître, sa renommée est grandissante. Mais au chapitre 6, il y a un petit changement. Un petit changement dans le sens où il a appelé quelques disciples, mais au chapitre 6, il va en appeler carrément combien ? 12. Et parmi ces 12, il y a de tout, hein. Il y a le super contemplatif, il y a le fougueux, il y a le hargneux, il y a Judas, et il y en a d'autres. Donc vous imaginez ce groupe hétéroclite. Et là, il va former ses disciples. Il va les former et il va déléguer. Et là, Nadia, je crois que je t'ai mis quelque chose sous ta chaise. Voilà, c'est Nadia. Qu'est-ce qu'il y a dans ce sac ? Je vais te laisser retourner à ta place. Pour un bon voyageur, il faut toujours une jaquette, si vous voulez. C'est du pain à manger. Hein ? Ben non. Jésus, qu'est-ce qu'il dit ? Rien. Rien, vous partez avec rien. Quand vous arrivez dans une maison qui ouvre votre porte et qui vous accueille, restez-y le temps qu'il faut. Quand on ne vous accueille pas, en signe de mécontentement, vous secouez la poussière de vos sandales. Ça avait une signification à l'époque. Donc, ce n'est pas idéal pour courir les contrées que de n'avoir rien. Mais tout au long du parcours, Jésus et ses disciples n'auront rien. Et c'est pendant cette période-là, donc on a le début là, on est au milieu, c'est dans cette période-là qu'il y a des messages fondateurs. Ce message fondateur, c'est le sermon sur la montagne. Heureux les et malheur, voilà, et malheur à. Et ça, c'est des textes très fondateurs. Et le groupe avance toujours bon train. Vous imaginez, les foules grossissent, hein, et les déplacements doivent être de plus en plus organisés. Quand je dis organisés, il y a 5000 personnes qui le suivent. Qu'est-ce qui se passe quand il y a 5000 personnes qui commencent à parler à 10h le matin et puis qu'il est midi ? Ils ont faim. Ah, mais ça tombe bien. J'avais du pain. Ah ouais, mais vous êtes beaucoup, là.
Eh ben, bon appétit, hein ? Quelqu'un fait la prière ? On se rend compte, on se rend pas compte. C'est juste une petite histoire dans la Bible. Oui, je me souviens parce que la multiplication, etc. Les gars qui étaient en face du petit sac avec le pain, ils devaient faire une drôle de tête quand même. Là aussi, on pourrait s'arrêter puis on pourrait juste réfléchir à quoi ça devait ressembler à l'époque. L'impression, ce que ça a dû graver dans le cœur des gens qui étaient là, puis la signification qui va derrière. Mais ça, on pourrait faire une année de caté sur tout ça.
Exactement. Et donc, ouais.
Il ne faut pas qu'on traîne.
Exactement, il faut qu'on avance plus vite. Donc là, la première période de la venue de Jésus se termine. Et elle se termine au chapitre 9, verset 51, si tu peux le lire, Roger.
Lorsque approchaient les jours où il devait être enlevé du monde, Jésus prit la décision de se rendre à Jérusalem. On est qu'au chapitre 9, mais 9. Il va commencer son départ.
Donc ici, il y a une saison. Je me permets. Tac. Voilà. Chantier. La césure, elle est là dans l'évangile. Ça, voilà, merci beaucoup. Et donc, on passe de l'autre côté. Et là, Jérusalem, ça évoque quoi chez vous ? La faim, la croix, qui sait qu'il y avait d'autres réponses? Voilà, tout à fait. Et là, on glisse gentiment, c'est la plus grosse partie de l'évangile, mais on glisse gentiment vers Jérusalem. Et la formation s'intensifie. Là, Jésus, il met la briquette. Il ne part pas avec 12 disciples, mais combien? 70, bravo! Et avec 70, il les fait partir et ils vont expérimenter des choses extraordinaires. Toujours sans sac, sans rien. Et ils vont revenir complètement réjouis. Oui, on a chassé des démons, on a guéri des gens, on a prié en ton nom, on a vu des miracles s'opérer avec nos mains, on a fait des tas de choses grâce à ton nom. On n'arrêtait pas. Et Jésus, là, qu'est-ce qu'il lui dit?
Alors, juste avant qu'il réponde, ici, il y a déjà quelqu'un de nous qui a guéri un aveugle. Vous imaginez si... Alors, Tony, tu peux sûrement nous expliquer, alors je t'écouterai avec plaisir le raconter. Guérir un aveugle, comme ça vous change la vie radicalement, comme vous le ressuscitez littéralement, puis comme vous faites quelque chose au nom du Seigneur Jésus. Vous imaginez, il y a un aveugle, je prie pour lui, je leur pose les mains, il voit. Quand je reviens, je suis gonflé à bloc, je suis dans la zone rouge, puis je vais lui dire, mais yes,
ouais.
Yes.
Mais qu'est-ce qu'il dit,
yes,
Jésus?
Yes.
Ouais. Mais qu'est-ce qu'il dit, Jésus? Roger?
Oui, réjouissez plutôt que vos noms sont inscrits dans le ciel.
Hein? Ça calme les ardeurs, là. Mais ça réjouit
ça
parce que...
Quoi?
Oui, ça veut dire.
Ça veut dire que quand je suis en train de lui dire yes, en fait, il me répond, attends, tu vois? Le truc, t'es hyper réjoui, euphorique. En fait, comparé à ce que je t'offre, c'est rien du tout. Est-ce qu'on a cet enthousiasme dans le cœur? Est-ce qu'on a compris ce que le Seigneur Jésus nous offre vraiment? Est-ce qu'on a compris ce qui compte vraiment? Est-ce qu'on a compris le vrai message de l'Évangile? Crois, Seigneur Jésus, tu seras heureux, tu auras une belle voiture. Non, ce qui compte, c'est que nos noms soient inscrits dans le livre de vie. Ça veut dire que en fait, tu étais mort, puis là, tu restes vivant.
Alors justement, Luc intervient là-dedans parce qu'il pose une question existentielle. Cette question existentielle, Nathan, tu pourrais juste m'apporter l'objet. Il est où, Nathan? Il est parti, Nathan.
Il est là.
Ah, t'es là, mais t'étais pas là-bas avant? Ah ouais, ouais. Merci, Nathan. C'est quoi?
Un gilet de sauvetage.
Pourquoi un gilet de sauvetage, à votre avis? Comment? Ce n'est pas une question de tempête.
Moi, c'est moi qui le prends. Hein.
C'est une question, la question qui est récurrente à partir de cette période, qui sera sauvé. Et là, il y a toute une série d'histoires, il y a toute une série de paraboles pour parler de ça. Alors, les plus connues commencent par le bon samaritain, Marthe et Marie, la brebis perdue, le fils prodigue. Mais arrêtons-nous sur une histoire sur laquelle on a travaillé. C'était l'histoire du grand festin. Et le grand festin, c'est un maître qui invite, qui a ses invités, il leur dit de venir, venez, venez, on fait la teuf, on fait la fête. Le premier, il dit quoi? Ouais, j'ai acheté un champ et je voulais en faire le tour. Bon, j'ai acheté une maison, je voudrais bien un, d'accord. Le deuxième, il dit, ouais, j'ai acheté une paire de bœufs. Ouais, je voudrais les essayer. Donc, j'ai reçu ma Ferrari, il faut que je roule avec, parce que ta fête, bon, c'est sympa. Là, j'ai envie d'essayer tout. Le troisième, il dit, ouais, je viens de me marier, je voudrais. Bon, c'est bon.
Moi, je viendrai peut-être, mais ça dépend si j'ai pas quelque chose de mieux, je te dirai plus tard.
Alors, qu'est-ce qu'il fait? Le maître, il en a marre. Il se dit, mais toute cette nourriture, toutes ces places vides, il rassemble ses serviteurs, il leur dit, allez dans les rues, allez sur les places, récoltez le maximum de personnes, je veux que ça soit plein ici. Alors les serviteurs, ils vont chercher, venez, 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 venez. Les gens viennent ou viennent pas, mais il y en a. Et la salle se remplit, mais elle n'est pas toute pleine. Et donc, il les renvoie, il a dit, allez dans les rues, dans les champs, au bord des haies. Alors au bord des haies, ce n'est pas les plus riches qui y sont. Il y a les estropiés, il y a tous ces gens-là. Et il remplit sa salle. Mais il y a qui dans cette salle? Il y a qui? Des boiteux, des pauvres. Des gens qui se baladaient, qui ont accepté. Il y a de tout, il y a plein de gens. Et cette notion-là, on l'a travaillée. Qui sera sauvé.
D'ailleurs, c'est une question qui a été posée. Est-ce qu'il y a plusieurs, est-ce qu'il y a que peu de gens qui seront sauvés? Et Jésus va raconter ses paraboles pour dire, mais en fait, Dieu nous cherche.
Tout à fait.
Tiens, attrape. Oh non, t'es gentil, c'est bon, je préfère nager. C'est un petit peu ça. On est dans des, on est, c'est des, si on regarde, c'est des paroles qui sont vraiment frappantes. C'est vivre ou mourir, c'est sauver, c'est être sauvé ou c'est pas être sauvé, c'est avoir une main qui va nous sauver puis dire, ben, non, non, finalement, c'est bon, je suis bon comme ça. C'est complètement fondamental. Pour moi, c'est un peu le cœur du message de l'Évangile.
Exactement. Mais Luc s'arrête aussi à des petites, petites vérités, à des petites notions qui sont intéressantes. Lauriane, t'es où Lauriane? Lauriane, t'es là. Tu peux m'amener la belle plante? Merci beaucoup. Alors, cette belle plante, moi je pars en vacances. Hein? Qu'est-ce qu'on fait quand on part en vacances? Ben, on frappe à la porte du voisin. Hé! Hey. Hein? Tiens, Sylvie, je pars en vacances une semaine. Tu peux t'occuper de mes plantes? Oui. Ouais, c'est bien. Et donc, je m'en vais. Je reviens une semaine après. Je regarde la plante. Wow, elle est toute jaune. Et là, Qu'est-ce qu'on va dire? L'année prochaine, hormis mes cactus, je lui donnerai un autre. Hein. Mais par contre, si je reviens, waouh, fantastique, la poussière est enlevée. Waouh, bah bravo, bravo. Dis voir, l'année prochaine, je m'en vais, j'ai un hectare de jardin, tu pourras t'en occuper? Je te la laisse ou bien? Non, non. Et oui, c'est des notions qui sont dans Luc. Quelle est cette notion, Roger?
Celui qui est fidèle en peu de choses, le Seigneur va confier de plus grandes.
Et tout au long de l'évangile de Luc, des questions comme ça. Il y en a une très très rapidement qu'on a aussi vue, s'il y a même une notion de savoir comment se placer dans une fête. Tu peux juste raconter un petit coup, Roger? Tu avais joué le marié ce jour-là.
Voilà, moi je suis arrivé habillé comme il faut et puis je me suis mis à côté de la mariée parce que j'étais quand même quelqu'un de très classe. Et puis, horreur, il y a, c'était Salomé qui arrivait et puis qui était invité d'avancer jusqu'à côté de la mariée et moi, je devais céder ma place et aller au bout de la pièce. Quelle honte.
Moralité?
Moralité.
Vaut mieux se mettre à une place au fond. Des fois qu'ils nous appellent et que tu traverses toute la salle, que ça t'attire, alors que si tu es devant, que tu dois retraverser dans l'autre sens. Il y a ça dans Luc. C'est Jésus qui donne cet exemple-là.
Les premiers seront les derniers.
Exactement.
Et les derniers seront les premiers.
Le mouvement de l'évangile s'accélère. Hein, on est presque à la fin. Et là, il y a un poids qui est là. Mais c'est un poids qui est particulier. On se dirige vers la fin. Quelque chose de contrastant quand même. Contraste. Anaëlle, tu as un sac? Qu'est-ce qu'il y a dans ce sac? Ah, la fête, toi? Non, faites gaffe, il y a des boules, hein.
Ça fait des siècles qu'on attend. On était en Égypte parce qu'on crevait de faim, on est allé se réfugier en Égypte, on est resté coincé là-bas, sous un soleil de plomb. Nos ancêtres, ils se sont enfuis, ils ont enduré tous les trucs possibles et imaginables. Ils ont fait leurs 40 ans dans le désert. Maintenant, ça fait des années que les Romains nous briment, ils nous piquent nos sous, ils nous disent comment ce qu'il faut faire et ce qu'il faut pas faire. Et puis là, ce Jésus, auquel on n'a pas cru tellement au début, parce qu'il est arrivé dans un carton au fond d'une gare, il a rien fait, entre guillemets, jusqu'à 30 ans, on n'a rien vu. Tout à coup, il a commencé à se révéler. Tout à coup, il a commencé à enseigner ses disciples. Et puis là, il arrive enfin. Vous imaginez? Les gens devaient être complètement frénésiques. Ça devait être la folie.
Ben, il y en a qui jetaient leurs vêtements par terre, il y en a d'autres qui jetaient des rameaux. Faites des... Et vous rappelez, dans les photos, on était au Mont Thèse. Et c'était intéressant, on était 13 à table. Et alors, en leur expliquant le contexte aux jeunes du caté et à nous-mêmes, on est au lendemain, enfin quelques jours après, la fête triomphale. Donc Jésus entre dans Jérusalem sur un ânon, et c'était le signe des rois. Donc le peuple d'Israël, comme tu disais, on a un vainqueur, on a le sauveur, on a le Messie. Et autour de cette table, on prépare la Pâque, et on va manger. Vous imaginez un peu les sentiments ? Il y en a qui sont super heureux, qui se disent, mais on mange avec le Messie. Et ce repas, il va bien se dérouler ? Ben, il va bien commencer, hein. Mais ça va vite tourner. Jésus va dire, va révéler qu'il trahira. Entre deux, il y a deux disciples qui se disent, c'est bien nous les plus grands. Les autres vont râler, dire, mais quel est le plus grand des disciples ? Et puis il y en a un, le plus enflammé, vous le connaissez, il s'appelle, qu'on appelle Simon. Simon-Pierre, qui lui va dire, mais Jésus, je sais que tu es le Messie. Si tu dois mourir, je mourrai avec toi. Et qu'est-ce qu'il dit ? Calme-toi. Le coq ne chantera pas trois fois que tu m'auras renié trois fois. Vous imaginez l'ambiance. Là, c'est la fin.
Alors là, je suis scié. Parce que on se réjouit et on est déçu, puis on désespère. Puis on se réjouit de nouveau et puis on est de nouveau déçu. Et puis on se réjouit, puis là, enfin... Il est à Jérusalem, puis ouais, ça y est, ce coup-ci, ça va le faire, il va nous virer. Hérode, Pilate, machin, il va s'asseoir, lui, on va faire la fête, ce sera la libération spirituelle, la libération politique, ce sera la libération totale. Et puis celui qui est le plus béton dans ses disciples, il dit, moi, je veux mourir avec toi. Il lui dit déjà, bah déjà, t'as un copain qui va aller me trahir, et puis toi, tu vas me renier trois fois demain. Elle ne va pas aller loin, son église. Hein. Si ça commence comme ça,
mais
déjà un de moins, l'autre
pire,
qui se défile.
Le pire, c'est que ça ne va pas s'arrêter là. Après, Jésus sera donc arrêté, il sera condamné et il sera crucifié. Non, ça va, j'ai testé. T'as vu ? Regarde. Ouais. Et c'est un moment qui est très fort. Vous vous rappelez dans Marc l'expérience, quand Matthieu se fait clouer sur la croix, le bruit que ça fait, hein? Et donc, là, beaucoup de désespoir, mais on n'entend pas les paroles de
oui.
Jésus.
Alors, finalement, on pense, et même les disciples pensent que tout s'arrête là.
Tout s'arrête là.
Un jour, rien.
Voilà.
Deux jours, toujours rien.
Bah, trois jours, enfin les esprits éclairés se révèlent. La tradition veut que le troisième jour, on aille chercher le corps pour l'embaumer. C'était la tradition. Qui est-ce qui y va ? Des femmes. Et donc, elles vont là-bas. Elles voient que la pierre est roulée. Elles sont effrayées, mais deux personnages arrivent. Ils sont resplendissants, c'est marqué dans la Bible. Ce sont des anges. Pourquoi avez-vous peur ? Celui que vous cherchez n'est plus là. Et alors aussi sec, vous voyez les femmes, la jupe remonte et direction les hommes qui eux tout de suite, oh non, 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 sceptique, très sceptique. Et Jésus va se révéler à deux. Qui marchaient justement avec leurs sandales, peut-être leurs bâtons, qui étaient tristes. Et il va marcher avec eux, on les appelle donc les disciples d'Emmaüs. Et là, il se passe quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'il se retrouve même au milieu de ses disciples par miracle. Hein, dans la Bible, c'est bien marqué qu'il arrive comme ça au milieu de ses disciples. Et notre parcours touche un peu à sa fin, mais reste un tout dernier événement. On a commencé par les quatre premiers versets, Et on va finir par les quatre derniers.
Le bruit commence à courir que Jésus n'est pas resté dans le tombeau. Le tombeau est vide. Personne ne peut jamais produire le corps parce qu'il est ressuscité. Et il va se révéler aux siens qu'il va conduire jusque vers Bethanie. Il leva les mains et les bénit. Et pendant qu'il les bénissait, il les quitta et fut enlevé au ciel. Quant aux disciples, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem remplis d'une grande joie. Ils étaient constamment dans le temple, louant et bénissant Dieu.
Là s'achève le livre de Luc. Les écrits de Luc s'arrêtent-ils?
Ça fait que commencer l'histoire de l'Église, qui continue dans les Actes, qui continue à Mérin et jusqu'aux extrémités de la terre.
Alors, voilà ce qu'on a fait cette année sur ce parcours-là, avec les jeunes du Caté.
C'était un tout petit peu plus long que d'habitude, mais en même temps, on vous a résumé une année, donc merci pour votre patience. Bravo Jean-Yves.
Et vivre de ton amour.
chaque jour. Je veux entendre ta voix et que ma vie soit pour toi, tout comme un parfum d'amour.